jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbon.
La rencontre des midis de culture, c'est une conversation avec notre invité. Ce midi, il est peintre, dessinateur, mais aussi critique d'art. Si à 17 ans, quand il intègre les Beaux-Arts, il avait écouté ceux qui lui disaient que la peinture était morte, il ne serait peut-être pas là face à moi. Sauf que pour lui, la peinture va devenir un quotidien. Quand il parcourt tous les musées d'Europe, avec le critique d'art Hector Orbach pour une émission de télé, il façonne son œil et accumule les connaissances. Quand il s'installe ensuite dans un petit village de Picardie pour peindre, une discipline monastique, même si peindre pour lui, ça lui prend du temps. Aujourd'hui, il expose une nouvelle fois sur les murs de la galerie parisienne des Filles du Calvaire des peintures à l'huile, mais aussi des portraits au fusain. Son geste est figuratif, ses œuvres plus sombres qu'il n'y paraissent. Leur toile de fond, c'est notre monde en pleine crise écologique et climatique. Thomas Lévillane, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans les midis de culture.
Merci.
Votre précédente exposition s'intitulait L'asphyxie. Aujourd'hui, vous présentez donc l'impuissance, je le redis, à la Galerie des Filles du Calvaire jusqu'au 11 mai prochain. Est-ce qu'on peut dire, pour commencer, pour rentrer dans votre univers, que le tragique, la catastrophe, c'est ce qui prime dans cette exposition et dans vos œuvres ?
Oui, c'est ça. En fait, moi, j'étais un peintre très très simple du banal. Je peignais la réalité comme elle était. Je m'intéressais aux invariants de l'existence en étant un peu classique, c'est-à-dire en faisant une peinture totalement premier degré, simple, un peu sous l'influence d'un philosophe qui s'appelle Clément Rosset. Et puis, d'un coup, est arrivée une catastrophe qui est ma catastrophe et la catastrophe de tout le monde, qui est cette espèce de passage de l'Holocène à l'Anthropocène, qui est le fait que on avait 100 000 ans de climat fixe et que d'un coup, on arrive dans une dérive climatique. Et d'un coup, ce que je peins de manière très banale est en train de s'échapper sous mes doigts. Donc, je sais plus du tout ce que je peins. Je sais pas si ça va disparaître ou pas. Je sais pas. Donc, j'étais obligé d'intégrer ça dans ma peinture. Et donc, il y a une espèce de vertige comme ça entre un amour... très fort pour les apparences, pour le monde réel, pour notre existence, et puis voir tout ça disparaître ou dériver, ou on ne sait pas savoir où on va.
Alors l'impuissance, ça fait référence à quoi ? L'impuissance politique, l'impuissance des hommes face à cette crise, l'impuissance de la peinture même, si j'ose ?
Oui, mais il y a un peu tout ça. Il y a le temps de la peinture qui est toujours un sujet compliqué pour moi, c'est-à-dire de pas savoir à quel degré je dois aller en profondeur dans les choses. J'ai eu beaucoup de retours des gens un peu plus vieux qui font des blagues sur le zizi, mais c'est pas du tout le sujet.
Sur l'impuissance,
ouais, voulez dire sexuelle. Voilà, ouais, d'accord. C'est pas du tout mon sujet. Par contre, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'impuissance politique, évidemment, et puis pourquoi pas l'impuissance désirée, c'est-à-dire le fait que on a une emprise sur le monde très très forte, et pourquoi pas être plus calme, être plus serein, et essayer d'apaiser les choses et de se rendre compte que chaque geste qu'on fait est souvent destructeur, quoi.
Vous voulez dire l'impuissance qu'on dénonce et puis l'impuissance qu'on pourrait rechercher, c'est-à-dire
exactement,
une forme
de désir de calme, quoi.
De moins d'emprise, de moins de puissance, justement, voilà. De réduire aussi l'emprise
plus
de l'homme.
Voilà. Et après, c'est un mot un peu parfum, parce que moi j'appelle ça les mots, enfin, dans mon exposition, mes mots, c'est toujours un peu un parfum d'exposition pour donner un peu un lien à tous les tableaux. Et c'est vrai que c'est des mots un peu qui sont aussi des stigmates. C'est-à-dire que là, j'étais amusé d'avoir trouvé ce mot il y a à peu près un an, et puis d'un coup me tomber avec, Macron qui parle de renforcement
démographique,
voilà, l'histoire de Julie Godrèche et tout ça. Enfin, on sent bien que c'est un enjeu, la puissance qui, voilà. Et ça, je pense que c'est aussi un sujet important pour moi, c'est que. Soit je crois vraiment qu'on a besoin d'une renaissance, c'est-à-dire d'une manière de remettre les valeurs à zéro, changer les valeurs par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, sinon, c'est le chaos. Donc, ça m'intéresse de renverser un peu les choses comme ça, en mettant quelque chose de positif avec le moins puissance, quoi.
Thomas Lévillane, on est à la radio, on va essayer d'écrire vos œuvres, d'entrer dans cette exposition avec vous. Et pour le faire, rien de plus réel, qu'un reportage de janvier 2023. Je vous laisse découvrir et ensuite on en discute.
En bus, en train, à vélo, en voiture, ils sont des dizaines de milliers venus sous la pluie aux abords de cette mine de charbon, tout près de la ZAD en pleine évacuation. Robert Stressing est venu avec ses trois enfants.
Et
c'est très important, surtout pour les enfants. Si on ne fait rien maintenant, la catastrophe climatique va nous frapper de plein fouet, insiste-t-il. Derrière lui, sur scène, un soutien de poids, la jeune activiste climatique suédoise Greta Thunberg, venue spécialement pour l'occasion. Que le gouvernement allemand négocie avec des compagnies d'énergie fossile comme RWE ici est une honte. Mais le charbon est encore là, Lützerath est encore là. Et tant qu'il n'est pas extrait ce charbon, le combat continue, lance-t-elle. Ce soir, des centaines de personnes sont toujours sur place, tentant de reprendre possession de la ZAD. Des échauffourées éclatent avec la police qui vient même de sortir des canons à eau.
Des canons à eau, décrits par le reporter donc Hugo Foutatalon. C'était en janvier 2023, Thomas Lévillane, en Allemagne, dans un contexte d'opposition à l'extension d'une mine de lignite à ciel ouvert qui entraînait et qui aurait dû entraîner la destruction d'un petit village, d'un petit hameau qui s'appelle Lützerath. On l'a entendu, cette image, elle vous a inspiré la première œuvre qu'on voit quand on entre dans cette exposition L'impuissance à la galerie des filles du Calvaire. Je la décris et vous entrez dans le détail, vous prenez le relais parce qu'il faut que vous m'aidiez, Thomas Lévillane. On arrive et on voit une grande toile avec des policiers allemands qui sont embourbés dans la gadoue. On a vu cette image au moment de cette actualité qui avait beaucoup été diffusée sur les réseaux sociaux, des vidéos. Évidemment, la police était moquée à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous amusait, vous, avec cette image en tant que peintre ?
Moi, ce qui m'intéressait, c'est que c'est pas forcément de me moquer des policiers, mais plutôt me moquer du régalien qui tombe, qui s'embourbe. C'est-à-dire que c'est des policiers qui sont armés avec des tasers en plastique, avec des grosses matraques bien virilistes, comme ça, ils font bien la tête et tout ça. Puis on sent bien qu'ils sont pas du tout à la hauteur du problème, qui est juste de s'embourber dans la boue. Donc, si vous donnez un exemple qui m'a beaucoup amusé récemment, c'était pendant que je faisais le tableau, il y avait les agriculteurs qui se bagarraient. Bon, ils se bagarraient un peu pour s'empoisonner et avoir le droit d'avoir des cancers plus tard, mais ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, ils montaient sur Paris comme ça, et il y avait eu des barrages de CRS, et en fait, les CRS barraient les routes, et se rendaient pas compte que, en fait, comme les agriculteurs étaient en tracteur, ils pouvaient contourner les routes par les champs, et puis voilà. Donc, c'était ce truc-là de rapport entre la puissance qui est développée par le régalien et la réalité du fait que ils pensent un peu en silo et qu'ils pensent pas assez à tous les enjeux climatiques d'aujourd'hui, les nouveaux enjeux quoi.
Quel est votre rapport justement à l'actualité, à cette image, à ces images qui sont produites au quotidien par les médias, par les activistes aussi, puisque c'est une manifestation. Hein, l'idée c'est effectivement qu'on en parle et donc au réel parce que c'est ça qui est questionné.
Alors ça m'arrive rarement d'utiliser des images de vidéos, des choses comme ça. Là c'est le seul dans l'exposition qui est comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des contre-images, c'est-à-dire de trouver des... Je mange beaucoup d'images médiatiques, de cinéma, de choses comme ça, même de TikTok, de toutes ces bêtises-là. J'en avale beaucoup. Et ce qui m'intéresse, c'est de trouver justement des contre-images, c'est-à-dire des images qu'on verrait pas ou qu'on pense pas, ou qui sont un imaginaire, trouver un nouvel imaginaire. Et donc cette image-là, justement, de la déplacer comme ça en peinture, c'est une manière de faire une espèce de peinture d'histoire, une histoire à venir, à mon avis, puisque je sais pas, par exemple, il y a 16 Canadairs en France, alors qu'on sait qu'on va avoir des feux dans les forêts de manière exponentielle. Bon, on n'est pas préparé, quoi. Voilà. Donc c'est ce genre de choses où je pourrais toujours penser un peu à mon image stigmate à la fin, quoi. Voilà.
Je vous ai présenté comme un peintre figuratif. Comment est-ce que justement, quand on est un peintre figuratif, on représente le réel, tout en se disant, puisque vous avez cité tout à l'heure le philosophe Clément Rosset, qui vous a beaucoup inspiré dans votre démarche de peintre, tout en se disant, ce que je suis en train de peindre, c'est bien le réel, je ne suis pas en train de me mettre à distance et de m'en exclure.
C'est évidemment artificiel, c'est un jeu artificiel, je ne crois pas que je peins le réel. Par contre, je joue quelque chose qui renvoie à un effet de réel ou un effet de présence comme ça. Parce que la peinture, c'est quoi ? C'est de la boue étalée sur un tableau qui d'un coup fait une forme, une présence, et après qui joue avec le fait que le présent est éternellement continu, et donc d'un coup il devient vivant par le temps qui passe, quoi, on va dire. Et donc, je ne crois pas que... Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la capacité d'empathie que je peux avoir en peignant les choses. Donc moi, ça m'intéresse de devenir une plante saxicole, de devenir un mur, de devenir une foule qui traverse une serre. Enfin voilà, de me mettre à la place d'une vache. Enfin voilà, c'est comme une prière comme ça où je me plonge dans le monde et j'essaie de pousser les choses en les refaisant. Voilà, tout simplement.
Vous plongez dans un monde qui est désenchanté. Ça, on l'a compris ou pas?
Ou génial, hein, parce que c'est génial que le monde existe, quoi. Enfin moi, je trouve que ça reste un miracle incroyable qu'on soit là, qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Voilà, moi je rejoue cette question-là toujours. Donc non, c'est pas... Par contre, oui, j'essaie pas de le rendre de manière médiatiquement sexy ou des choses comme ça, j'essaie de le rendre comme il est. Ce qui est un truc qui est une esthétique qui me plaît beaucoup, c'est comme ça.
Il y a dans ces œuvres, à chaque fois, effectivement, alors je l'ai pas encore bien décrit, mais je vais essayer de le faire, vous faites de la peinture à l'huile. Qu'est-ce que ça dit de votre geste, sachant que quand on se tient assez éloigné de vos peintures... Il y a un aspect, un ressenti photographique de brillance. Je ne sais pas comment vous le décrivez d'ailleurs.
Oui, bah ça, c'est un tableau. C'est pas comme une. Alors une photo, on a pas beaucoup de. Il y a pas beaucoup de différence entre le moment où on la regarde de près et là on regarde de loin. Et là, moi, mes tableaux, ils ont un côté un peu con de loin. J'imagine, je pense à un tableau qui est un bord de mer, par exemple, une vue sur hier avec une poubelle au premier plan. Bon, bah de loin, ça a un petit côté carte postale, voilà. Et puis quand on se rapproche, on voit que d'un coup, bah on voit ma trace de pinceau, on voit l'engagement que j'ai eu. Et donc ça, le tableau change un peu, tourne un peu, quoi. La carte postale devient un peu plus inquiétante. Voilà, et donc ça, c'est un plaisir de la peinture, c'est justement qu'il y ait des différences d'échelle qui font que ça raconte pas la même chose. De la même manière, l'implication que je peux avoir dans une peinture comme Dans la serre, qui est une peinture que j'ai mis 2 ans à faire, bah, je pense que ça pose, que les gens voient bien que j'ai fait ce travail-là et que je me suis impliqué là-dedans, donc je pense que ça peut poser une question au spectateur de manière performative, de se dire, mais pourquoi il a mis autant de temps à faire ce tableau-là, pourquoi il s'est donné autant à ce tableau, quoi. Une petite question comme ça qui s'ouvre dans la manière même de faire.
Alors, j'aime bien l'idée que vous donniez des clés de lecture de vos œuvres, c'est-à-dire effectivement, de loin, on voit ce coucher de soleil sur la mer, on voit ce bord de plage à Ostende, on voit aussi ce mur frontal avec des briques qui est recouvert de tags, et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure où on s'approche, qu'est-ce que vous voulez montrer à celui qui vient se frotter à cette œuvre-là? L'engagement que vous avez mis, justement, le temps que vous y avez passé, la virtuosité de la brosse appliquée, de la peinture appliquée?
En partie, parce que ça fait partie du jeu d'être un peu spectaculaire, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me disent « Ah, mon petit-fils pourrait le faire, mon fils de 5 ans pourrait le faire. » Voilà. Il y a ce côté-là séduisant de la technique. Et après, je pense qu'il y a quand même du fond, où il y a d'autres couches qui arrivent. Et ce qui est drôle, moi, c'est les retours que j'ai par rapport aux spectateurs. C'est-à-dire, ne serait-ce que le retour des corps des spectateurs. C'est-à-dire que je vois des gens qui passent quand même beaucoup de temps dans mon exposition. Donc ça, c'est une joie. C'est-à-dire qu'ils passent pas en 2 secondes. Ils mettent du temps. Il y a de la mâche, quoi, on va dire. Il y a du temps à regarder. Et après, ils me racontent toutes leurs angoisses. ils arrivent pour me raconter toutes leurs angoisses sur la dérive climatique. Donc ça, un tel me raconte que sa forêt d'enfance a brûlé. Enfin voilà, toutes ces choses-là, ça veut dire que ça passe, quoi. Voilà. Et encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'espace finalement, même médiatique, où on raconte toutes ces choses-là. Enfin, le saccage qui est en cours, il est quand même très tu. Donc il y a un espèce de soulagement aussi général, surtout chez les jeunes, je dois dire. Voilà.
Justement, vous nous parliez de l'œuvre, enfin du tableau, de la toile dans son ensemble, et puis du détail, celui qui vient justement peut-être déclencher quelque chose chez celui qui et celle qui le regarde.
Oui, bah il y a souvent ça dans mes tableaux, il y a toujours un petit détail qui vient casser un peu le côté bon esprit du tableau.
C'est là où bon esprit, parce qu'effectivement
oui, un côté sympa au départ, voilà. Et puis en fait après ça se gâche un peu, quoi. Voilà, il y a toujours donc si je prends l'exemple le plus simple, c'est la poubelle qui est regarde une très belle mer avec un très beau coucher de soleil. C'est vraiment un cliché de tableau. Ça pourrait être un tableau de Gaspard David Friedrich du 18e siècle, romantique, devant la mer. Puis moi, c'est une poubelle en plastique. Pourquoi c'est une poubelle en plastique? Parce qu'en fait, c'est des poubelles qui sont payées par le lobby du pétrole et du plastique, qui veulent comme ça expliquer que s'il y a du plastique dans la mer, bah, c'est à échelle individuelle que ça se joue, et qu'il faut donc jeter nos bouteilles de plastique dans les poubelles au bord de la mer. Et puis en fait, après, il y a un deuxième effet qui se coule, c'est au milieu des algues, il y a 2 petites taches vertes comme ça, très artificielles, pour montrer que le plastique est déjà partout, et la mer même est déjà presque en plastique, quoi. Voilà.
Il y a donc un propos politique, d'engagement, que vous assumez, ou vous faites la moue quand je dis ça?
Non, moi je c'est pas un propos politique, c'est un propos on va dire presque ça pourrait être sociologique, ça pourrait être juste, je regarde, mon travail c'est de regarder le monde et de le montrer comme il est, quoi. Après, j'ai l'impression que on veut tellement pas le voir que par exemple un objet plastique, ça dure 450 ans de vie. On mange 5 grammes de plastique par semaine, l'équivalent d'une carte bleue par semaine. J'ai l'impression que c'est pas dans notre univers mental, voilà. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de l'amener dans notre univers mental, de voir que on est quand même en train de se saccager nous-mêmes.
Quelle est la marque, quelle est la trace laissée par l'homme sur notre environnement? Votre démarche,
c'est vraiment anthropocène, c'est-à-dire de montrer à quel point nos comportements et notre manière de vivre a vraiment saccagé la planète. Oui, voilà, ça c'est pas. Mais j'ai l'impression que c'est comme un. Alors si je prenais une. Bon, je vais aller dans un truc. On est en direct, hein, je peux en profiter.
Allez-y. Allez-y, je vous cadre s'il y a besoin.
Non, mais en gros, le changement de paradigme qu'il y a eu avec MeToo, avec les histoires d'inceste ou des choses comme ça, j'ai vraiment l'impression que il va se passer la même chose par rapport à la dérive climatique et tout. tout ça. C'est-à-dire, on voit bien ce que ça fait comme effet. C'est-à-dire que même sur des gens qui sont contre ces effets-là, d'un coup, on voit que ça les touche, on voit que ça remue quelque chose chez eux, quoi. Et je pense qu'il y aura les mêmes effets d'allétéia, de changement, on enlève un voile comme ça, pour voir que, bah oui, là, on fabrique du CO2 aujourd'hui. Bah voilà, c'est dans le rapport du GIEC, c'est quand même 97% des scientifiques de la planète qui sont d'accord sur ça. Quand on produit une tonne de CO2 aujourd'hui, dans 10 000 ans, il en reste 10%, quoi. Et c'est quand même un saccage très, très, très inquiétant.
Ce qui est marquant et ce qui m'a marqué quand j'ai visité votre exposition, Thomas Levillan, c'est que vous parlez tout le temps de parfum. Vous avez parlé de parfum avec ce titre, L'impuissance. Vous parlez d'infusion, de contamination. Et là, je pense notamment à cette vidéo qui est diffusée au sous-sol de la galerie des Filles du Calvaire. Une vidéo, comment dire, asanxiogène, qui s'intitule Vous êtes ici, et où vous nous confrontez à la réalité de ce qu'on vit et de ce que peut-être on ne se rend pas compte, notamment notre rapport à la technologie, notre rapport à l'outil qui est le téléphone portable. Et qu'est-ce que vous voulez dire avec cette vidéo et comment ensuite elle change peut-être notre regard sur vos œuvres?
Alors ce que je veux dire, c'est toujours pareil, c'est que si je voulais dire quelque chose, j'écrirais déjà un texte. Et puis ce que je veux faire sentir, c'est-à-dire au lieu de faire poser la question, je voudrais la faire sentir, quoi. Je voudrais faire sentir la question. Et donc là, c'est une vidéo très très simple avec des textes qui défilent. Vous descendez, vous êtes dans une salle, vous pensez que tout va bien, et en fait, je vous décris le fait que les murs de la salle sont faits en peinture vinylique, ce qui pollue absolument la mer. Que le béton, le béton sur le sol sur lequel vous êtes debout, c'est un béton qui d'un coup pollue extrêmement, puisque une tonne de béton fabriqué, c'est une tonne de CO2 produite. Je vous montre que pourquoi on aurait besoin que le projecteur qui projette la vidéo soit une coque plastique, parce qu'on imagine que le projecteur il a une durée de vie de 10 ans, alors que le plastique donc, par lequel il est fait, il en a pour 450 ans. Enfin voilà, je vous montre à peu près le fait que le mal est absolument partout. J'aurais pu même pousser les choses, parce que j'ai étudié les Kleenex par exemple, où les Kleenex ça détruit la forêt dans le nord. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça où il suffit de tirer un tout petit peu les ficelles, c'est vraiment pas très compliqué pour voir à quel point on est dans un saccage généralisé. Si je devais avoir un autre exemple qui me touche le plus, c'est le fait que on parle beaucoup de voitures électriques, de choses comme ça. Évidemment, j'ai oublié le nom du cobalt. Voilà, le cobalt, c'est produit que au Niger. C'est des enfants qui produisent ça. Il y a 40 000 enfants aujourd'hui qui sont quasiment esclaves des Chinois pour fabriquer du cobalt. Et ça pose de problème à personne de se dire qu'on a tout ça dans notre iPhone et qu'on aura tout ça dans nos voitures. Chaque voiture électrique, c'est 40 kilos de cobalt.
Dans la vision du peintre, il y a quelque chose de tout à fait remarquable, c'est que le peintre qui regarde la nature ne regarde pas la nature, il y voit le tableau à faire. Voir l'entraînement du peintre, son entraînement perceptif et intellectuel, consiste bien souvent à ne voir dans la nature que des tableaux offerts et offerts à son instrumentation personnelle. C'est ce que connaissent aussi tous les peintres occasionnels, les peintres du dimanche, les peintres de vacances. Pendant tout le temps, il n'y a pas d'entraînement. Eh bien, la nature est comme disponible n'importe quel comment. Mais une fois l'entraînement acquis, la nature semble être immédiatement saisie dans des cadres esthétiques.
La voix du philosophe Étienne Souriau sur ce rapport entre peinture et nature. On est en 1958 sur la radio Sorbonne. Thomas Levillan, est-ce que vous voyez bien ce que veut dire le philosophe à ce moment-là sur ce rapport entre peinture et nature? Est-ce que vous avez été d'accord avec lui? Vous êtes d'accord avec lui? Ou est-ce que votre vision a évolué sur ça, évidemment?
Alors depuis très longtemps, je suis pas du tout d'accord avec lui. C'est-à-dire que le rapport nature-culture, c'est un vieux cliché d'art contemporain qui m'a toujours... J'ai jamais compris en fait. C'est-à-dire que je pense que il y a pas de distinction à faire entre les deux. Bon, ça, il y a plein de philosophes qui travaillent là-dessus et bon, voilà. Enfin, je pense que c'est pas une question et je pense que c'est un défaut puisque d'un coup, ça voudrait dire qu'on voit bien qu'on fait partie de la nature, quoi. C'est-à-dire que on a des millions de microbes dans la bouche. Il fait chaud, on sent bien qu'on il y a pas de séparation, quoi. Voilà. Et ça, pareil, le fait de faire une séparation, c'est une manière de pouvoir dire que les choses sont protégées d'elles-mêmes, quoi. Alors qu'en fait, on est que en relation à longueur de temps. Donc, je pense que c'est une grave erreur. Oui. Enfin, bon, je pense que c'est un peu passé, hein, comme manière de voir. Après, pour le peintre, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que je pense que la peinture, c'est une manière c'est comme un exhausteur de goût. C'est-à-dire que ça rend le réel plus intéressant, plus intense. Et ça, c'est quand même un vrai sujet aujourd'hui, parce qu'on est dans un rapport à la réalité où on veut voir toujours de l'ailleurs, on veut avoir des nouvelles sensations, des choses comme ça. En fait, je pense qu'il suffit de se concentrer un peu sur le réel pour voir qu'on a des sensations. Par exemple, je comprends pas pourquoi on va à Euro Disney et qu'on va pas dans la forêt la nuit se balader. Les sensations sont 10 fois plus fortes dans la forêt la nuit. Récemment, j'étais dans le Vercors, je me suis baladé à 5 heures du matin tout nu dans la montagne. Je peux vous dire que ça rigole pas, hein. C'est des vraies sensations, voilà. Et donc, c'est un rapport comme ça très simple enfin, beaucoup plus frontal au réel qui, à mon avis, est plus intense, voilà.
Vous dites les peintres, en regardant la nature, en prennent déjà soin.
Oui, il y a un truc comme ça de soin, c'est-à-dire de, bah déjà on fait, quand on regarde quelque chose, qu'on le contemple, qu'on le goûte, et bah déjà on n'est pas en train de le saccager. Et oui, je pense qu'il y a cette chose-là. Par exemple, moi, je serais assez pour aujourd'hui que le 30% d'internet c'est de la pornographie. Je serais assez pour qu'il y ait des cours de dessin de nu pour les jeunes garçons et les jeunes filles de 14 ans, parce que ça leur apprendrait à avoir un rapport au corps distant, avec un espèce de, ça ferait tomber des fantasmes, des espèces de un rapport comme ça où on prendrait le temps de digérer ce que c'est qu'un corps féminin ou masculin de manière moins bête que ce qu'on a aujourd'hui. Quoi. Oui, c'est. Je pense qu'on regarde pas assez les choses et je pense qu'on ferait plus de. Il y aurait plus de peintres dans le monde, ça irait mieux.
Ah ben justement, c'est intéressant, quelle est la différence entre l'œil du peintre, qui est le vôtre, et l'œil du non-peintre, qui est le mien ?
Bah, je pense que j'ai un rapport plus gourmand aux choses, voilà. C'est-à-dire que d'un coup, quand je dessine par exemple un micro là, comme vous avez dans votre studio, et bah d'un coup le micro, je l'ai un peu dans mon âme, enfin je l'ai un peu dans mon corps. Il est un peu, voilà, je l'ai un peu accaparé et donc je suis plus attentif peut-être aux choses, aux petits détails, aux petits, voilà, j'ai un goût. Et ça, quand on regarde de la peinture ancienne ou quand on va au musée, tout ça, j'ai cette même impression-là. Une belle exposition, c'est une exposition quand vous sortez de là. Vous avez plus envie de la vie, quoi. C'est un exhausteur de goût. Il y a un truc où tout est plus gourmand. Là, ce qui est assez drôle, c'est que, par exemple, j'ai fait un mur de lance dans mon exposition, un mur de briques. Il y a plein de gens qui m'envoient des photos de murs, qui me taguent sur Instagram avec des photos de murs parce que d'un coup, ils pensent à moi en voyant ça. Bah, en fait, ne serait-ce que ça, je les ai rendus un petit peu plus sensible à ça, quoi. Les plantes saxicoles aussi, pareil, il y a toutes les petites plantes qui se baladent dans la rue, comme ça, je reçois plein de photos de ça, voilà.
Est-ce que vous recevez aussi des derrières de vaches?
Non. J'ai pas reçu de derrière de vaches.
Vous avez peint un derrière de vache.
Ouais.
C'est d'ailleurs, ça m'a surpris parce que c'est une des deux œuvres qui n'est pas terminée dans cette exposition, que vous avez quand même exposée, que vous finirez plus tard, c'est ça?
Alors, je m'étais engagé à la finir pendant l'exposition. Ça se complique, mais oui, l'idée c'était de montrer le travail en train de se faire. Ce qui est un truc qui m'intéresse. Et le derrière de vache, ce qui m'a fasciné, c'est que moi, encore une fois, j'adore la peinture, j'adore l'histoire de l'art, et je n'avais jamais vu une vache peinte comme ça, même en photographie ni rien. Et moi, j'ai passé trois semaines dans le Vercors à chercher ma vache comme ça en vélo électrique. J'ai trouvé une vache super, et d'un coup, je me suis rendu compte qu'une vache, de dos. À un moment donné, c'est une cathédrale d'obscénité, c'est-à-dire qu'il y a en gros peut-être 70 cm d'obscénité, et donc je la monte comme ça frontalement au tableau. Mais c'est aussi une manière de dire, en fait, on peut même une vache, on peut la voir nouvellement, quoi. Voilà, il y a encore des manières de les voir. Et après, ce qui m'intéressait dans ce tableau aussi, c'est que moi, je me décentropocentrise un petit peu, c'est-à-dire que j'essaie de me mettre du point de vue de la vache. Et donc, d'un coup, quand la vache, pour elle, l'herbe, c'est très important. Et donc, je vais essayer de peindre l'herbe avec autant d'amour que la vache en a, autant de gourmandise que la vache peut avoir pour l'herbe, quoi. Et donc, c'est ça qui a fait que ça m'a foutu dans la merde, parce que le tableau, ça met du temps à peindre brin d'herbe par brin d'herbe, quoi.
Voilà. Parce que c'est ça aussi, votre travail, c'est la précision du geste, la précision de la fleur. Vous me disiez que, par exemple, si on photographie une fleur que vous avez peint, les outils technologiques aujourd'hui sur Internet peuvent reconnaître précisément de quelle fleur.
Oui, parce que j'ai pris bien soin, enfin je l'ai bien rendu, donc oui, ça c'est assez rigolo. Ouais.
Vous disiez la peinture s'inscrit dans le temps long. Ça veut dire que ce que vous peignez aussi, c'est une forme d'atlas, de marque, de trace de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui n'existera peut-être plus demain.
Oui, voilà, moi j'ai toujours, alors on pourrait trouver ça mégalomane ou prétentieux, mais j'ai toujours considéré que si je jouais le jeu de la peinture, je joue ce jeu du temps long. C'est-à-dire que si je fais des objets peinture, c'est pour qu'ils durent longtemps. Et donc je me suis toujours projeté en me disant comment on va les prendre dans 50 ans, dans 100 ans et tout ça, quoi. Et c'est vrai que là, par exemple, il y a 15 ans, je faisais des peintures de gens en train de regarder des portables et des écrans d'ordinateur, parce que c'était une chose qui me paraissait un nouvel invariant de l'existence. C'est-à-dire que la technologie rentrait dans nos vies. Et aujourd'hui, il y a plein de peintres qui font ça partout. mais ce qui m'intéressait, c'était encore une fois que ça me paraissait être une nouveauté par rapport au flux humain. Et là, oui, en ce moment, je peins des paysages ou des choses comme ça. Par exemple, je peins la plage d'Ostende, qui est un front de mer ultra années 70, années 60, qui est encore en travaux, qui est en face d'une mer. je dois dire que je sais pas si je peins pas quelque chose qui va disparaître, puisque la surface de l'océan se réchauffe de manière exponentielle. Je vous invite à regarder ça, c'est très simple, hein, mais c'est presque 0,2 degrés par an. Donc c'est quand même une dérive assez... On y est dedans.
Thomas Lévillaine, vous dites, c'est peut-être un peu mégalo comme démarche de se dire, mon tableau sera peut-être dans un musée dans 60...
Ça, c'est sûr.
100 ans, bien évidemment.
Le tableau marchera encore.
Ouais. Mais est-ce que ça vous vient, par exemple, aussi de cette habitude que vous avez pris? Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes dès l'âge de 15 ans dans les galeries parisiennes, vous suivez rapidement, assez jeune, des ateliers de peinture. À 17 ans, vous entrez au Beaux-Arts. Vous passez ensuite, on va revenir peut-être sur les Beaux-Arts, ouais. Mais vous passez du temps ensuite à être dans les musée, à filmer, à photographier avec vos yeux aussi un nombre incalculable de peintures. Donc, pour vous, ça représente quoi une peinture, en fait, dans votre vie?
On va prendre une heure et demie à peu près. Qu'est-ce que ça représente?
C'est pas simplement un objet d'art.
Non, c'est pour moi, j'en ai besoin existentiellement pour... Je pense que c'est un objet presque de vérité, quoi. Voilà, c'est un bloc de vérité. C'est un bloc. C'est comme Baudelaire dans Les Phares. Il y a une poésie de Baudelaire que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Phares, où à la fin il parle d'un ardent sanglot qui va d'âge en âge. Voilà. Enfin, le côté d'une espèce de compagnonnage comme ça des peintres qui racontent leur malheur ou leur tristesse ou leur rapport à la réalité un peu douloureuse dans des objets. Voilà, on n'est pas seul, quoi. Voilà, moi je suis pas seul quand il y a Manet, quand il y a Rubens, quand il y a Velázquez. Voilà, c'est vraiment quelque chose un rapport très très intense comme ça et très j'en ai besoin, quoi. Voilà, c'est physique. Et après j'ai besoin aussi du fait de peindre parce que ça me réconcilie avec l'existence.
Vous n'êtes pas seul, sauf quand, donc, je l'ai dit tout à l'heure, au Beaux-Arts, on vous dit la peinture, c'est fini, c'est ringard. Thomas, vous ne ferez pas de peinture. Si vous voulez être un artiste connu, ne faites pas de peinture.
Oui, alors ça, c'était quand je suis arrivé. Donc, il y a eu une doxa anti-peinture pendant assez longtemps en France, on va dire de 86 à 2008, où, en gros, il y avait une espèce de grosse pression des institutions, surtout, pas forcément des galeries, qui expliquaient que la peinture était morte parce que ça rentrait pas dans une histoire téléologique de l'art où d'un coup l'art se serait allé vers une décomposition comme ça jusqu'aux avant-gardes et puis après aux installations, aux performances ou à la photographie. Et évidemment, d'un coup, la peinture ne rentre pas dans ce cycle-là puisque nous, on est un cycle un peu humble de rejouer un jeu qui existe depuis 700 ans, quoi. Voilà. Et donc, évidemment, ça posait problème. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps, mais je dois dire que c'est très, très joyeux aujourd'hui parce que, en ce moment, il y a une explosion de peintres. Il y a notamment Nathan Herbelin au musée d'Orsay. Il y a Apollonia Sokol au cinéma. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont très joyeuses. Il y a plein d'expos et tout ça. Il y a eu l'exposition au MoCo où il y avait 100 peintres et ça fait 3 fois plus d'entrées que ce qu'ils font d'habitude. Enfin bon, c'est très joyeux parce que voilà. Mais,
c'est une revanche, du coup?
Comment?
C'est une revanche pour vous ou vous
non,
saviez, vous alliez de toute façon, vous vouliez être peintre?
Moi, je pense que c'est les artistes qui font l'art. Donc, c'est à eux de décider. Et ce qui est très étonnant en France, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une pression entre les institutions, un rapport de force entre les institutions et les artistes. Moi, je trouve que ça devrait être le travail du milieu de l'art, ça devrait être de soutenir les artistes et pas autre chose, c'est-à-dire de pas les brider. Donc, si je voulais un exemple que j'aime beaucoup en ce moment, c'est qu'il y a 40% des étudiants aux Beaux-Arts de Paris en ce moment qui font de la peinture. Ça déborde de partout. Il n'y a pas assez de place dans les ateliers et tout ça. Et l'institution, au lieu de se plier un petit peu à tout ça.
De trouver de la place.
Voilà, trouver de la place, voilà, a plutôt tendance à pousser les artistes à arrêter la peinture encore parce que il y a trop de peintres, quoi. Et voilà, je trouve ça intéressant cette tension-là. En gros, moi, encore une fois, il y a quand même quelque chose où les artistes se sont fait voler un petit pouvoir quand même à un moment donné de dire, en fait, c'est nous qui faisons l'art, c'est nous qui sommes légitimes et c'est presque nous les experts mondiaux de nous-mêmes.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau.
Tu fais des paysages aussi, tu fais pas que des visages, quoi.
Ouais, mais les visages, c'est plus dur. Hein.
Ah ouais.
Ouais, t'aimes bien?
Ouais, je trouve ça très beau.
T'as de l'argent?
Non.
Ah, dommage, je t'aurais bien vendu.
Ah bah non.
Ça t'embête pas, toi, de pas avoir d'argent?
Non.
Ça m'emmerde.
Ah bah voilà. Mais dis-moi, toi, tu n'arrives pas à les vendre, en fait, parce que tu n'arrives pas à trouver des clients ou parce que tu peux pas t'en séparer?
J'arrive pas à m'en débarrasser, quoi. J'arrive
pourquoi
pas à les montrer.
T'arrives pas à les montrer. Ouais. Bah voilà. Mais c'est vraiment beau. Non, c'est vraiment beau.
C'est vrai, mais tu t'y connais?
Non, j'y connais pas. C'est triste.
Non, c'est pas triste.
C'est hyper beau.
Mais c'est pas triste par contre. Hein.
Ah bon, c'est gay en fait?
Bah non, c'est... Enfin, c'est ni triste ni gay, quoi.
Ah ouais, c'est neutre. Moi, bon, bah, je suis sûre que ça va marcher vachement bien pour toi, hein.
Un extrait du long métrage multiprimé à Berlin, à Angers ou encore à Brive, Vilaine fille, mauvais garçon, ça date de 2011, Thomas Lévillain. C'est réalisé par Justine Trier et c'est vous qui jouez. On retrouve votre joie de vivre aussi, votre joie d'être peintre. Vous êtes dans cet échange avec la comédienne Laetitia Doche. Un mot sur ce film, qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'idée de peut-être incarner à l'écran la vie d'un peintre, ce qu'est un peintre en fait?
Alors j'ai pas eu trop le choix parce que en fait je suis ami avec Justine Trier depuis les années depuis 2000. Voilà, c'est ma meilleure amie on peut dire
Elle vous a pas laissé le choix, quoi.
Non, voilà, elle a commencé, en fait elle faisait du documentaire, enfin elle faisait de l'art contemporain, des vidéos d'art contemporain et après elle a fait des documentaires et là c'était sa première fiction qui était produite par Emmanuel Chomet. C'est un court-métrage d'ailleurs, ça dure une demi-heure. Et la blague, c'est que en gros, comme elle faisait un court-métrage, elle avait un peu peur de passer du documentaire à la fiction. Donc elle est partie d'un bain de malaise de mon existence pour faire un. Elle a rajouté Laetitia Doche dans l'histoire, qui était un peu le point de vue de l'extérieur. Et elle s'est inspirée un peu de ma vie comme ça, un peu bohème, perdue, à pas avoir d'argent et. Et on a fait ce film là avec toute la bande de copains qu'on a depuis longtemps. Bah là il y a aussi Aurélien Bélanger qui est dans le film. Enfin voilà. Et c'était très joyeux, très très fort. Moi j'étais pas un très bon acteur, donc j'étais au gin tonic toute la journée pendant une semaine, mais ça marchait bien.
T'aimes bien, t'as de l'argent. Je reprends ce dialogue parce que quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit être seulement artiste, c'est pour moi un enjeu politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous refusez de ne pas vivre de votre art.
Oui, voilà, ça a toujours été le cas depuis même 15 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai toujours adapté ma manière de vivre à l'argent que j'avais. Voilà. Donc j'ai vécu à des endroits pas possibles. J'ai vécu à Montluçon, j'ai vécu en Picardie. J'ai aussi vécu à la Villa Médicis, on va pas s'embêter pendant une année, c'était super. Voilà, j'ai toujours fait ça. Et après, j'ai des prises de risque aussi. C'est-à-dire que par exemple, là, j'ai fait un tableau qui dure 2 ans, qui a mis 2 ans à se faire. Bon, bah, évidemment que c'est un tableau complètement suicide, où économiquement, ça veut absolument rien dire de faire ça, quoi. Voilà. Mais encore une fois, c'est mon jeu existentiel qui est la peinture. Et je pense pas que je serai un artiste, on va dire, qui va pouvoir répandre toutes ses œuvres dans le monde, vu que je mets 3 mois en moyenne à les faire. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette intensité-là. Voilà. Et même d'un point de vue, alors pour le coup, on va dire politique ou écologique et tout ça, c'est pas mon but de matraquer tout le monde avec mes tableaux, de prendre toute la place, d'écraser tout le monde. Au contraire, je pense que je suis pour l'émulation et la variété de tous les artistes.
Et cette émulation, elle passe aussi par une émission que vous animez tous les dimanches soirs sur une chaîne YouTube. Ça se passe actuellement justement à la galerie des Filles du Calvaire le dimanche. Mais c'est une forme de hors-série, c'est une habitude. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est l'idée aussi de transmettre, de mettre en avant d'autres artistes, d'autres personnes de l'art. Comment vous faites?
Alors en fait, je me suis retrouvé devant une situation, donc après c'est prendre acte du fait que j'étais dans la dérive climatique et que les choses changeaient et qu'il fallait un petit peu trouver une nouvelle manière de se comporter, j'ai voulu prendre soin de mon biotope. Donc mon biotope c'est quoi? C'est le biotope des peintres, voilà. Et c'est comme je vous l'ai expliqué par rapport aux Beaux-Arts de Paris, c'était un biotope qui allait mal, hein, qui va quand même passer assez mal à mon sens, dans le sens où je pense que les artistes pourraient être beaucoup plus soutenus. Et donc je me suis retrouvé dans une situation où j'ai interviewé des peintres pour leur donner la parole pendant 1 heure. Donc là vous pouvez tout retrouver sur YouTube en tapant Les Apparences sur YouTube. Voilà, il y a une chaîne avec déjà 84 heures d'interview, 84 artistes différents. Ils parlent tous très bien, ils sont tous extrêmement intelligents, ils sont tous extrêmement cultivés, ils sont tous extrêmement curieux, intenses, profonds. Enfin voilà, c'est une vraie joie. Et c'était une manière de casser la concurrence, c'est-à-dire en gros, on se met tout le temps à se faire la queue pour aux mêmes endroits entre artistes en se tapant dessus. Et là, j'ai dit, voilà, je voulais accueillir les gens et accueillir toutes les générations, tous les sexes, enfin, voilà, il y a vraiment toute cette chose-là. Et c'est très beau parce qu'en fait, ça crée une énergie qui fait que notamment, par exemple, cette chaîne a plus maintenant de vues et d'abonnés que, on va dire, les grandes institutions, donc l'École des Beaux-Arts de Paris, le CNAP, voilà. Et donc ça montre bien que, encore une fois, les artistes, c'est les gens les plus intéressants, à mon avis, de ce milieu.
C'est vraiment ça, l'ambiance entre artistes? Il y a une vraie concurrence, comme vous...
Alors, de moins en moins aujourd'hui, parce qu'on comprend que ça va pas se passer comme ça, mais il y a quand même un effet, c'est un milieu ultra libéral, le milieu de l'art. C'est-à-dire, vraiment, c'est l'offre et la demande, il y a trop de demandes, il y a trop d'offres. Donc, oui, ça peut être assez violent. Et justement, moi, ce qui m'intéressait, c'est de casser les choses. Donc, par exemple, ça m'amusait toujours d'appeler des artistes un peu plus âgés, qui ont l'habitude d'être dans la concurrence, et de leur proposer de faire une émission, et que eux, la première chose que je vois bien qu'ils se demandent, c'est qu'est-ce que je vais leur voler, quoi. Alors qu'au contraire, je leur donne, quoi. Je l'ai mis en valeur et tout ça. Et donc ça, c'est, voilà. Et après, mon autre plaisir, et donc là, je suis content de faire ça sur France Culture, c'est que j'aimerais que les gens qui s'intéressent à l'art, qui vont, par exemple, voir l'exposition Monet au Grand Palais, ou qui aiment la peinture, qui vont au Musée d'Orsay, qui vont au Louvre et tout ça, s'intéressent un petit peu plus aux contemporains. Parce qu'en vrai, il y a plein de choses vraiment intéressantes. Voilà. Donc là, c'est très simple. Quand vous allez voir la chaîne YouTube, vous avez la tête du monsieur qui a l'air très sympa et un tableau de lui. Et donc, d'un coup, vous pouvez choisir comme ça. Il y a plein de variétés. Hein. C'est pas que de la peinture figurative comme moi. Enfin, voilà, il y a plein de choses différentes.
On vous retrouve donc sur cette chaîne YouTube, Les Apparences. Merci beaucoup, Thomas Lévillaine, d'être venu dans l'émission de Midi de Culture sur France Culture. Ah, je rappelle votre exposition L'Impuissance jusqu'au 11 mai à la galerie Les Filles du Calvaire. C'est 21 rue Chapon.
Au fond de la cour,
il faut frapper, sonner, plutôt. Voilà,
n'hésitez pas.
Et traverser effectivement le Porsche. Je rappelle également qu'on pourra découvrir votre monographie La fin du banal. Ce sera à l'automne prochain, donc 280 pages, édition de l'École des Beaux-Arts de Paris. Et puis, vous serez également en exposition. Ce sera, au Centre d'Art Les Églises à Chelles, en Seine-et-Marne. Ce sera également à l'automne prochain. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. On va terminer en musique. Si j'y arrive, avec deux chansons que nous avons sélectionnées en référence à deux des œuvres qui sont justement exposées dans la galerie des Filles du Calvaire, soit une vache, soit les policiers. Que préférez-vous écouter ? C'est nous qui avons sélectionné les chansons, Thomas Lévillaine.
Bah, une vache.
Allez, les vaches.
Au flanc du coteau, la vieille vache, seule, sans lui comme un rat, elle ne peut rompre son attache, elle piétine à petits pas, à l'horizon pas un train qui passe, elle n'a rien à regarder, alors dans son crâne elle ressasse les souvenirs du passé. Son homme était un taureau qui lui a donné six veaux. Ils ont fini, pauvres bêtes, en ragoût et en côtelettes. Quant à son taureau chéri, pour l'Espagne il est parti. C'est là qu'il fut mis à mort par un jeune toréador. Ce deuil cruel lui a fait tourner son lait. Au flanc du coteau, la vieille vache, seule, sans lui comme un rat. Des grosses larmes coulent dans ses moustaches, elle piétine à petits pas. Dans le champ, pas même une copine, avec qui faire des cancans. Alors dans son crâne, elle rumine, la vache est un ruminant. Mais voilà que dans le pré, une famille.
Voilà, on est heureux de vous faire découvrir la samba de la vieille vache, Thomas Lévillaine.
J'aurais préféré Dua Lipa.
On aurait pu faire ça aussi. Merci beaucoup d'être venu dans les Midi de Culture. Une émission préparée par Apolline Limousinois et Seth Wendeuil, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle. L'émission est réalisée ce midi par Nicolas Berger et à la prise de sang, c'est Mélissandre Roux. Merci à tous et à toutes et à demain.